Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Quel est le lien entre certaines épreuves de la vie, des traumatismes et des maltraitances passées et l'apparition de pathologies à l'âge adulte, troubles cardiovasculaires, douleurs chroniques, diabète de type 2? Que dit la recherche scientifique sur ces événements de vie négatifs et la survenue de pathologies? C'est notre thème ce matin. On sait par exemple que des agressions sexuelles vécues dans l'enfance ont un impact sur la santé à l'âge adulte. On s'intéressera également aux pensées négatives qui peuvent provoquer des symptômes désagréables, mais également aux conséquences des chocs émotionnels sur notre santé. N'hésitez pas à témoigner et à poser vos questions au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Ali.
Médecin et romancier, quel est le menu de votre chronique?
On va parler diabète, macroute et solidarité internationale.
Quel programme, à tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi. Grand bien vous fasse.
Bah, ça faisait mal, quoi. Ça, c'était pas la petite fessée, hein. Non, c'est la raclée, quoi. L'image que j'ai quand je vous parle vraiment, c'est, il y avait une espèce d'escalier avec le, c'était l'époque du linoléum. Et j'étais vraiment replié dans l'escalier, quoi. Jusqu'à ce que ça s'arrête.
Le comédien Thierry Beccaro qui raconte les maltraitances vécues dans l'enfance dans l'émission 7 à 8 en octobre 2021. Bonjour Cyril Tarquignot.
Bonjour.
Vous êtes psychologue et psychothérapeute, professeur de psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé à l'université de Lorraine à Metz. Vous publiez chez Dunod « Les maladies ne tombent peut-être pas du ciel, comment les événements négatifs ont un impact sur notre santé ». Bonjour docteur Patrick Lemoine.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychiatre, docteur en neurosciences, écrivain et vous avez notamment publié « Le mystère du nocebo » chez Odile Jacob. Alors Cyril Tarquignot, pendant longtemps, la recherche scientifique n'avait pas la preuve du lien entre les événements de vie négatifs et des problèmes de santé physique à l'âge adulte. Les études et les recherches s'accumulent depuis quelques années.
Disons que le bon sens populaire avait une idée sur la chose. On entend ici ou là, depuis longtemps, nos grands-mères, nos parents nous dire qu'il ne faut pas se faire de mauvais sang, par exemple. Mais c'est vrai qu'il y avait une forme de réticence, je dirais, de la recherche scientifique et notamment des sciences médicales à d'abord à prendre en compte la composante émotionnelle et à inscrire au fond le fait que les maladies doivent s'envisager dans une perspective, je dirais, historique. C'est-à-dire, au fond, il était temps que l'on prenne le sujet dans sa globalité, donc aussi avec son histoire. Et c'est depuis 98, à proprement parler, que les premiers travaux à peu près sérieux ont émergé et ont mis en évidence quelque chose de très étonnant qui a quand même fait tomber de sa chaise, de leur chaise, beaucoup de chercheurs, à savoir qu'il existe non seulement une relation de causalité, mais plus encore une relation dose-effet. En d'autres termes, plus je suis confronté à des événements difficiles durant l'enfance et l'adolescence, on parle dans le milieu d'adversité, d'événements adverses, on pourra y revenir tout à l'heure, plus les conséquences en termes de santé physique vont être importantes durant la vie adulte. Et ça quand même, c'est une dimension nouvelle qui nous oblige, quelle que soit notre discipline, à penser la problématique de la santé des adultes que nous sommes, des êtres humains que nous sommes, en des termes nouveaux.
Docteur Patrick Lemoine, du temps où vous étiez étudiant en faculté de médecine, on aurait considéré qu'il s'agissait d'ineptie?
Ah oui, ça aurait été totalement absurde. D'ailleurs, si j'avais mis ce genre de choses, je ne serais pas médecin. C'était inconcevable. Et pourtant, maintenant, c'est tout à fait démontré. Je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Mais on peut même parler des événements heureux aussi qui modifient notre santé. Une de mes infirmières récemment me disait « C'est étonnant, chaque fois que vous allez chez Ali Rebéi, qui comme chacun sait est très écouté, les traitements marchent mieux. Après coup, les gens vous ont entendu chez lui, donc vous êtes connu. Et donc, vos médicaments, vos psychothérapies vont mieux marcher. Et donc, c'est un effet positif, d'un événement positif.
Baptiste Beaulieu.
C'est toujours compliqué parce que quand on est médecin de prendre un cas particulier et quand les cas particuliers se répètent, d'essayer d'en tirer une règle générale. Mais je suis content de voir que la recherche avance et que la recherche tend à confirmer ce que nous, en tant que médecins généralistes, on voit sur le terrain. C'est-à-dire que oui, des vécus traumatiques peuvent engendrer plus tard des maladies physiques.
Est-ce que c'était au programme de vos études de médecine?
Clairement, pas vraiment, voire pas du tout. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, dans la nouvelle génération de médecins qui a tendance à émerger, c'est-à-dire de questionner les patients, les patientes, lors de leur premier interrogatoire, premier rendez-vous, lors de l'examen clinique. Ça fait partie de l'interrogatoire, savoir quels sont leurs vécus. Et parmi les vécus, est-ce qu'il y a des vécus d'abus en tout genre, que ce soit agression physique, agression sexuelle.
Cyril Tarquinio, quand nous consultons un médecin, il est assez rare qu'il puisse établir un lien entre certaines pathologies et des événements passés traumatisants.
Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est pas la faute des médecins en tant que tel. Là, je crois qu'ils ont été formés comme ça. Mais je crois qu'il faut qu'on en finisse avec une médecine à la Monsieur Patate, quoi. C'est-à-dire avec des organes comme ça disséminés sans qu'il y ait de lien entre eux. Je crois qu'il est vraiment temps aujourd'hui que la médecine. Et moi, j'ai la chance d'être dans un laboratoire qui est un laboratoire très interdisciplinaire, sciences médicales. Et psychologie convergent vers une approche interdisciplinaire. On ne peut pas amputer les sujets de ce qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres faits d'émotions et des êtres faits de chair et d'os, quoi. Et je crois que c'est remettre de l'intelligence dans la compréhension de ce que sont les individus. Et vous et moi, nous avons une histoire.
La coupure esprit-corps est totalement dépassée aujourd'hui?
Aujourd'hui, elle est même inacceptable. Je veux dire, on se doit d'être dans une vision intégrative. Et c'est pas simplement une vision philosophique. Aujourd'hui, on a des travaux. La science parle. Même si depuis la crise de la Covid, on croit moins aux scientifiques, je veux dire, parce qu'on...
Une certaine partie de la population.
Voilà. Hein. Donc, je crois que la science, c'est quand même quelque chose auquel on peut s'accrocher, qui peut nous guider, et sur lequel on peut fonder un certain nombre d'hypothèses aujourd'hui, mais au fond, qui sont sensées. Hein.
Docteur Patrick Lomond.
Oui, alors, on parlait de l'interrogatoire en médecine. C'est pas toujours facile, parce que parfois, le traumatisme est très ancien, parfois il est oublié, et parfois il a été vécu par procuration. J'ai le souvenir d'une jeune fille qui avait à peu près 18 ans, qui était hospitalisée pour un trouble borderline, donc elle était abandonnée, qu'elle se scarifiait, elle était impulsive. Et elle avait une peur des hommes, mais inimaginable. Dès qu'elle voyait un homme passer dans le coin, elle était morte de trouille. On était tous convaincus qu'elle avait été l'objet de maltraitance. Et elle nous disait, mais non, ma mère m'a toujours surveillé comme le lait sur le feu, je suis certaine que non. À bout, on convoque la maman avec la fille, on les voit, toutes les deux, toutes les ensemble. Et au bout d'un moment, oui, la mère dit non, je suis certain que non. Et tout d'un coup, elle s'effondre en larmes, la mère, en nous disant « Moi, j'ai été violée par un homme. Ma fille est le produit de ce viol. J'ai été traumatisée. » Alors, sous le coup, on s'est dit « Bon, y a une transmission familiale de la peur des hommes, de la maman à la fille. » Et en réalité, maintenant, avec ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire des mutations, des gènes, vraiment, induite par méthylation pour les experts, sous l'influence d'un événement, ça peut être un polluant, ça peut être un traumatisme comme ça, il y a une mutation qui peut être transmise à la descendance. Donc cette fille avait été violée par procuration quand sa mère l'avait été.
On le sait aujourd'hui, et la recherche scientifique le confirme, des agressions sexuelles vécues dans l'enfance ou l'adolescence ont un impact sur la santé physique à l'âge adulte.
Oui. Oui, mais c'est-à-dire que des collègues suisses ont montré, pour rebondir ce qui vient d'être évoqué sur l'épigénétique, il y a quelques années, que ces cicatrices biologiques, hein, puisque c'est ça au fond, hein, en fait on est tous des spécialistes de l'épigénétique, hein. Je vais vous donner un exemple très simple, aujourd'hui on est au printemps là, les chenilles, c'est pas beau les chenilles, hein, voilà, et puis à un moment donné quand l'environnement change, il y a du soleil, la température augmente, elles se transforment en papillons, et voilà. On est tous des spécialistes de l'épigénétique. C'est le même patrimoine génétique entre le papillon et la chenille, sauf que certains gènes se sont révélés, se sont exprimés. Bien. Imaginons que certains gènes ne déterminent pas la couleur des ailes, mais permettent de réguler, les hormones de stress. Imaginons qu'il n'y ait plus rien pour réguler les hormones de stress, eh bien c'est ça qui se passe chez les victimes. C'est-à-dire que le fait d'être confronté à des événements violents qui génèrent de la détresse va rendre dysfonctionnelle cette partie de notre organisme déterminée par des gènes qui régulent au fond la physiologie du stress. Résultat des courses, c'est comme une voiture où il n'y a plus de frein, il n'y a qu'un accélérateur. Eh bien, toute notre vie, on va baigner dans une soupe d'hormones de stress. Mais qu'est-ce que ça a comme conséquence? Mais c'est terrible. Quand j'étais étudiant, on travaillait avec des souris. Et on avait deux groupes de souris. Un groupe de souris avec des cellules cancéreuses, l'autre aussi, toutes identiques. Le premier groupe, on les mettait dans des endroits où on les laissait tranquilles. Deuxième groupe, on les stressait. Et on avait pris soin de doser les cellules cancéreuses en amont. Quelques semaines après, on fait un même dosage. Qu'est-ce qu'on observe? Les groupes de souris stressées avaient développé 3 à 4 fois plus de cellules cancéreuses. Ça ne veut pas dire que le stress provoque le cancer, mais le stress a un effet sur le système immunitaire qui devient moins efficient pour se battre contre le développement de ces cellules cancéreuses. Et c'est ça le problème. Au fond, c'est très simple. Quand on est confronté à un environnement pathogène, violent, ça génère des états émotionnels qui conduisent à un dysfonctionnement de notre organisme qui n'est plus capable de réguler les choses. Je parle même pas du versant psychologique, mais sur le plan physiologique. Du coup, eh bien, les gens sont dépositaires d'un terreau qui, eh bien, va conduire à beaucoup plus de chances de développer par la suite, au fil des années, eh bien, certaines pathologies. Voilà.
Alors l'idée ce matin tout de même, c'est de ne pas accréditer l'idée que toutes les pathologies ont un lien avec des traumatismes passés. Docteur Lemoine.
Oui, je voudrais même aller un tout petit peu plus loin et passer de la souris au rat. On prend des rats qui ont tous des cellules cancéreuses aussi. Et on les met soit dans une cage où on leur fiche la paix, soit dans une cage où on les stresse, ils n'y peuvent rien, les malheureux. Et le troisième groupe de rats tiré au sort, il est dans une cage où il peut contrôler le stress grâce à un bouton. Ils apprennent super vite, les mecs. Et ils coupent le stress chez eux et chez les petits copains du deuxième groupe. Ce qui veut dire que 2 et 3 ont exactement la même quantité de stress, que 2 n'y comprend rien, il prend des pêches, il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas quand ça va revenir. Et 3 contrôlent la situation. Bilan des courses, dans le groupe 2, il y a une explosion des cellules cancéreuses. Et dans le groupe 3, il y a une régression du cancer. Donc ça montre aussi que si, grâce à des bons journalistes, le stress, on leur donne des moyens de contrôle, porter un masque, les gestes barrières, tout ça, eh bien on réduit le risque d'infection ou de cancer. Donc on peut aussi délivrer un message optimiste. Tout n'est pas lié non plus au stress, tout n'est pas lié à la psychologie, bien entendu, mais il y a un lien entre le système immunitaire, anti-cancer, anti-infection, et le stress qui est évident et éclatant.
Oui, mais dans ce que vous dites, ce qui est important, c'est le contrôle. Ouais. Au fond, et effectivement, vous avez raison d'une part de dire qu'on ne va pas être dans une psychologisation ridicule de la santé. Hein, je veux dire, c'est une des composantes, c'est ça qui est important. Mais ce que vous dites aussi, c'est qu'au fond, docteur Lemoine, comment dire, on connaît des tas de gens qui ont été confrontés à des événements difficiles et qui vont bien.
Oui.
Pourquoi? Mais parce que la psychologie humaine est compliquée, mais parce qu'ils ont trouvé de la ressource dans leur environnement. Ils ont trouvé des gens qui, face à des mauvais traitements, se sont occupés d'eux, les ont aimés, les ont aidés. C'est ce que Boris Cyrulnik appelle les tuteurs de résilience. Eh bien, au fond, c'est quoi? On redonne du contrôle, on redonne de l'espoir.
Absolument.
Et ces événements de vie qui auraient pu être pathogènes, mais presque sont transcendés, sont transformés en force de vie, et qui permet de faire que, ben, même si on a été dans l'épreuve, mais on vit, et on vit bien. Donc ça, c'est quand même un message d'espoir.
Boris Cyrulnik a signé la préface de votre livre. Un mot sur le terme traumatisme, qui vient du grec trauma, qui signifie blessure. Qu'est-ce qu'un psychotraumatisme et quels sont, à grands traits, ses éléments constitutifs?
Alors, ça pourrait être très long d'en parler, mais juste un point d'histoire, très rapide. Vous aurez remarqué que les hystériques ont disparu de la planète. Voilà. Il n'y a plus d'hystériques, il n'y a plus de névrosés. Aujourd'hui, on est dans l'ère du psychotrauma. Voilà. Donc là, il y a quand même une révolution depuis quelques années, et c'est tant mieux, je dirais. C'est-à-dire que pendant longtemps, on avait considéré que la question du trauma était secondaire, qu'elle était même à la périphérie de ce qu'on appelle la psychopathologie. Aujourd'hui, mécanisme inverse, on considère que tout est trauma et que le trauma est au centre de la psychopathologie. Il y a véritablement aujourd'hui une révolution copernicienne dans le champ, dans notre discipline. Bien. Qu'est-ce que c'est que le psychotrauma ? C'est d'abord, il faut distinguer trois choses. Les événements traumatiques, le processus traumatique et les conséquences psychotraumatiques. Les événements traumatiques, eh bien, là, actuellement, on en vit, c'est la guerre, par exemple, mais c'est pas que ça, c'est les attentats qu'on a connus, mais c'est pas que ça, c'est aussi ce qu'on a pu vivre durant l'enfance, ce sont des événements qui sont liés aux violences familiales, mais attention, il n'y a pas d'événement traumatique. Le traumatisme n'est pas dans l'événement. On va plutôt parler d'incident critique. Le traumatisme naît de la rencontre entre un incident critique et un individu, une histoire de vie. Savez-vous comment est-ce qu'on torturait les moines bouddhistes en Chine ?
En leur faisant manger de la viande.
En leur faisant manger de la viande. C'est comme si nous, on nous demandait de manger du corps humain. Alors pour nous, ça nous fait rigoler, manger de la viande. C'est pas traumatique. Mais vous voyez bien que c'est la rencontre entre des événements et des histoires de vie. Et c'est quoi une histoire de vie ? C'est une appartenance culturelle, une appartenance sociale, une appartenance familiale. Dans des familles qui ont connu la Shoah, par exemple, des événements qui arrivent aujourd'hui sont pas anodins. J'avais une patiente, il y a quelques semaines, qui était bouleversée par la guerre en Ukraine. Mais parce que elle se rappelait de la guerre d'Algérie, elle se rappelait de ce qu'elle avait vécu durant la Seconde Guerre mondiale, de ce que sa famille avait vécu. Donc, ce qui nous est un événement du quotidien, on regarde ça à la télé, pour d'autres, fait résonance. Donc, notre histoire de vie va donner une interprétation, une texture aux événements auxquels on va être confronté. Et ça peut, parfois, effectivement, générer des états émotionnels qui, et là on commence à avoir un élément explicatif, dépassent nos capacités d'adaptation. C'est-à-dire que nos ressources sont débordées, on n'arrive plus à faire face. Et donc, ça va conduire à des processus psychiques, physiologiques, qui vont s'exprimer de différentes manières. Et ça, c'est le psychotraumatisme. On connaît le classique trouble de stress post-traumatique. On le voit au cinéma, etc. Rambo et le prototype. C'est héros des séries américaines et du cinéma américain des années 80. Mais c'est pas que ça. Aujourd'hui, les formes psychotraumatiques peuvent être des douleurs chroniques, c'est-à-dire que le trauma s'exprime différemment, on peut avoir des conduites addictives, on peut avoir des troubles dissociatifs, on peut avoir des troubles qui ressemblent à des formes d'épilepsie, on peut avoir tout un ensemble d'expressions qui aujourd'hui sont devenues effectivement d'une grande complexité et qui méritent l'attention des cliniciens.
Pourquoi certains métabolisent mieux un psychotraumatisme que d'autres ?
Eh bien, d'abord, regardez, si on devait prendre tous les deux le départ du semi-marathon de Paris, on n'aurait pas les mêmes performances. Déjà, il y a des composantes intra-personnelles. Bon. Et puis, le fait qu'on aura su trouver ou pas les ressources dans l'environnement social, à l'intérieur de soi, dans ses croyances, dans sa spiritualité, dans ce qu'on est, voyez, et de ce point de vue, dans la famille. Donc c'est tout un ensemble de paramètres qui vont, je dirais, pondérer les impacts des événements. C'est pourquoi, dans une même famille, où on a des jumeaux, par exemple, qui sont confrontés à un même environnement violent ou de maltraitance, on ne va pas avoir les mêmes impacts. Donc, au fond, nous sommes tous très inégaux face au psychotraumatisme. Et surtout, ça veut dire que personne, ni vous, ni moi, ne peut dire a priori ce qui va faire trauma chez l'un et chez l'autre. Et je pense que de ce point de vue, il faut qu'on cesse avec ces jugements a priori, qui consiste à dire que tel événement, insulter, toucher les fesses, faire des blagues, effectivement, sexistes, tout ça est anodin. Mais non, c'est pas anodin. Ça dépend de à qui ça s'adresse. Ça dépend de comment ça va résonner dans notre histoire de vie. Et de ce point de vue, je crois qu'il serait temps que la société soit beaucoup plus ouverte et comprenne à quel point ce type de phénomènes peuvent parfois bouleverser une vie.
Dans un instant, nous verrons comment la mémoire d'un traumatisme s'imprime dans notre corps et peut causer des pathologies. Ce sera juste après Scott McKenzie, San Francisco, à 10h26. If you're going to San Francisco, be sure to wear Patrick Lemoine, ça vous rappelle votre période hippie, hein?
Absolument.
Scott McKenzie.
Je vois mes photos et la barbe.
San Francisco.
Grand bien vous fasse. Ali Rebéi. Sur France Inter.
Et ce matin, on se demande en quelle mesure les événements négatifs de notre vie ont une influence sur notre santé. Vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Avec nous, le psychologue et psychothérapeute Cyril Tarquinio et le psychiatre Patrick Lemoine. Alors Cyril Tarquinio, la mémoire d'un trauma peut remonter avant l'âge de 24 mois et même remonter à la grossesse?
Écoutez, je suis pas un immense spécialiste du domaine, mais il semble effectivement que de toute façon, ce qui se passe durant la vie intra-utérine laisse des traces qui peuvent être cérébrales, psychocorporelles, et on a beaucoup changé de discours depuis ces 20 dernières années en ce qui concernait effectivement la capacité ou non de l'enfant à engrammer les choses. Une chose est certaine, c'est que toutes les structures cérébrales, notamment ce que vous avez là devant le front, c'est ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Il y a certaines parties de ce cerveau qui jouent un rôle dans la régulation des émotions. Bon, en d'autres termes, c'est pour ça que certains enfants font des colères, qu'il y a des peurs, etc. C'est la métaphore de la voiture avec l'accélérateur et sans le frein. Voilà. Donc les émotions intenses sont là, il y a rien pour les réguler. Bon, eh bien, on se rend compte que c'est une vie intra-utérine perturbée, eh bien, ralentit le développement de cette partie du cerveau. Donc tout laisse penser qu'effectivement cette dimension-là mérite d'être pris en compte.
Docteur Patrick Lemoine.
Oui, il faut bien comprendre qu'on a tous plein de gènes qu'on appelle de vulnérabilité. Ça veut dire qu'ils risquent de rester muets toute la vie, mais parfois, sous l'influence d'un stress, ils pourront s'exprimer. Un des meilleurs exemples, alors je ne parlerai pas des vieilles études sur les femmes enceintes pendant les bombardements de Berlin en 45, où on a montré quand même chez les enfants nés plus tard, il y avait des problèmes. Mais un exemple plus récent, c'est le génocide du Rwanda, où il a été assez bien montré que les enfants qui étaient dans le ventre de leur maman à ce moment-là ont eu des gros problèmes plus tard. Et il semblerait que chaque fois que ça souffre dans le ventre, il y a un risque, par exemple de schizophrénie, par exemple d'état limite. Il y a par exemple eu des famines en Chine, et 20 ans plus tard, il y a eu une génération de schizophrènes. Au Rwanda, il semble qu'il y ait une génération d'état limite. Mais il y a donc le stress. Alors évidemment, là, on est des stress extrêmes. Le génocide du Rwanda, c'est le pire qu'on puisse imaginer. Mais prenons un stress très simple. Moi, mon métier, c'est le sommeil et ses troubles. Eh bien, s'il y a eu, dans les années 90, un jeune homme qui s'appelait Randy, qui restait, pour être au Guinness Book, 11 jours et 11 nuits sans dormir. Il n'a eu aucun problème. Aucun problème de santé. Deux nuits de récupération, tout allait bien. Un tout petit peu avant, pour torturer les gens en Europe de l'Est, on les empêchait de dormir. Et ils mouraient assez vite d'ulcères de stress, d'infarctus, etc. Donc ça veut dire que le même stress, privation de sommeil, selon qu'il était voulu, que c'était un titre de gloriole pour le jeune homme, ou selon que c'était une torture, pouvait soit donner la forme et la gloire, soit complètement plonger les gens dans la mort. Donc le même phénomène, selon le contexte, selon l'histoire, selon l'âge, selon la psychologie, selon l'entourage, selon tout ce qu'on veut, va entraîner rien, ou au contraire des catastrophes.
Bonjour Clara, bienvenue. Bonjour Clara, êtes-vous avec nous, Clara? Vous appelez de Bretagne.
Oui.
Bonjour, quel est votre témoignage ou votre question, Clara?
Bonjour. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre super émission.
Merci.
Et ma question est la suivante. Suite au décès d'un proche, vers l'âge de 7 ans, on a eu un cas dans notre famille d'une enfant qui a vu sa croissance ralentir. Cette croissance était tout à fait normale avant le décès. Et donc après, il y a eu vers l'âge de 14 ans, il y a eu des analyses qui ont été faites en hôpital pour voir si c'était pas physique. Et à l'époque, dans les années 80, rien n'a été trouvé. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que la perte d'un parent, la mère en l'occurrence, peut avoir une incidence sur la croissance de l'enfant?
Cyril Tarquignot.
Alors, j'aurais pas la prétention de dire que il y a une relation de cause à effet sur la croissance à proprement parler. Ça, ce serait vraiment délicat de ma part d'avancer cela. Mais ce qu'on sait, puisque la perte d'un parent fait partie de ce qu'on appelle les événements adverses, c'est-à-dire les événements qui vont générer de la détresse ou du psychotrauma chez les enfants, eh bien, ça va avoir des conséquences, évidemment, sur la santé psychologique et physique. Ça, aujourd'hui, on le sait. Et pourquoi pas sur le développement physique, bien évidemment. On a quand même montré, effectivement, le docteur Lemoine l'évoquait tout à l'heure, que les enfants qui effectivement avaient été conçus durant la Seconde Guerre mondiale dans une partie des Pays-Bas, deux à trois générations plus tard, étaient plus petits, de quelques centimètres, avaient un poids plus faible que les autres. Donc on a des effets effectivement qui nécessitent la prise en compte de ce choc émotionnel.
Docteur Lemoine.
Alors, je vais juste vous contredire un petit peu, professeur Tarquignot.
Un peu de débat.
Un peu de débat. Parce qu'il y a des études très intéressantes, notamment dans le Bronx, dans une population portoricaine pauvre, où tout d'un coup, les enfants ne grandissaient plus. Il y avait des nanismes fonctionnels, ils n'avaient pas de problème génétique, ils mangeaient à leur faim, personne ne comprenait. Et un jour, il y a eu un chercheur qui a eu une idée géniale. Ces enfants, il leur a mis des boules qui est la nuit. Ils ont grandi, en 6 mois, ils avaient retrouvé une taille normale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la totalité de l'hormone de croissance, dans les conditions normales, est produite pendant le sommeil, pendant ce qu'on appelle le sommeil profond. Et que si, et là je réponds à Clara, sous l'effet d'un deuil, un enfant dort moins bien, il perturbe son sommeil profond, il fait moins d'hormones de croissance, et si on s'intéresse à son sommeil, et qu'on l'aide à retrouver un sommeil profond, il doit retrouver sa taille.
Vous l'avez modérément contredit.
Oui, vous m'avez pas contredit. Parce que
je, non, c'est non, juste pour lever le débat.
Oui, voilà, non, vous n'êtes pas contredit, parce qu'au fond, vous allez plus loin que moi. Je veux dire, parce que, vous, effectivement, vous donnez une explication assez cohérente. Hein.
Ouais. Merci beaucoup, Clara, de nous avoir appelé. Lydie nous écrit, ma fille de 14 ans est suivie pour une maladie auto-immune déclarée 2 ans après un événement difficile, c'est-à-dire l'incendie de la maison familiale dans laquelle nous dormions. Le corps médical prend en compte principalement les symptômes de la maladie. J'hésite de la faire accompagner par un psychologue. Quel est votre avis, Cyril Tarquignot ?
Je pense qu'il faut la faire accompagner par un psychologue, mais un psychologue qui soit ouvert, un psychologue qui soit dans une perspective effectivement très intégrative et pas dans une fermeture dogmatique. Oui, ça vaut la peine. Je pense qu'il faut traiter le trauma. Et aujourd'hui, on en parlera sans doute un peu plus tard. On a des formes de psychothérapie qui sont des éléments de réponse aujourd'hui indiscutables pour non seulement soigner, mais, et ça on n'osait pas le dire hein, il y a quelques années, guérir sur le plan psychique les choses. Hein. Ah oui, complètement, je vous invite à le faire et aller voir des gens qui ont des outils. Et encore une fois, quand je parle d'outils, c'est certainement pas de la thérapie verbale. Hein. Mmh. Parce que, comme je le dis souvent à mes étudiants, la thérapie verbale, c'est comme pisser tous les matins. Hein. Ça fait du bien, mais tous les matins, on recommence. Là, il faut aller un peu plus loin et il faut être dans une démarche vraiment curative.
On a parlé hein, des conséquences néfastes.
Quel bonheur d'entendre ça, quel bonheur.
On a parlé des conséquences néfastes du stress maternel sur le développement de l'enfant, mais tout cela peut être atténué grâce à un environnement sécurisant, sécure, pour parler comme les psychologues.
Et oui, et c'est très important. Je veux dire, l'environnement... D'ailleurs, le pire des traumatismes, c'est le trauma du lien. C'est-à-dire, lorsque l'on est dans des environnements où on se sent mal aimé, rejeté, c'est-à-dire que lorsque ce qu'on appelle les liens d'attachement sont dysfonctionnels, comment voulez-vous croire en la vie lorsque, durant toute votre enfance, on vous a renvoyé d'abord que vous ne valiez rien, parce que personne ne s'intéresse à vous? Ben voilà, ça développe une image de soi-même, mais c'est la pire des choses, quoi. Je vaux rien, je suis nul, etc. C'est ça qu'on met dans notre tête. Hein. Et puis, comment voulez-vous faire confiance aux gens après, à vos amoureux, à vos amis, lorsque ceux qui n'auraient jamais dû faillir, vos parents ou les figures d'attachement, n'ont pas été à la hauteur. Mais ça, c'est éminemment destructeur, c'est un cataclysme qui va nous suivre toute notre vie. Et donc effectivement, si on a la chance, quand on a été confronté à des épisodes traumatiques, on le voit avec le deuil, avec les violences, le harcèlement scolaire dont on parle pas beaucoup, mais qui fait partie de cela, mais qu'on est dans un environnement sécurisant, qui répare, et même la vie amoureuse adulte, à cette vertu-là. C'est-à-dire que si vous avez la chance de rencontrer quelqu'un qui vous aime, je veux dire, qui répare quelque chose de votre système de pensée, eh bien, cela peut vous aider à avancer, justement, dans la vie.
Hein. Docteur Lemoine.
Oui, et pour en revenir à cette personne qui a développé une maladie auto-immune 2 ans après l'incendie de sa maison, certainement, elle bénéficierait d'une prise en charge non verbale et exclusive, effectivement, je suis totalement d'accord avec ça, mais pas que. Je vais faire un peu de science-fiction, mais imaginons qu'au moment où sa maison a brûlé, bah, elle n'avait plus de cuisine, donc elle a mangé différemment. Et donc, elle a modifié ce qu'on appelle le microbiote, c'est-à-dire tous les microbes, les centaines de milliards de microbes qu'on a dans son tube digestif. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que si une anomalie du microbiote entraîne une infection du tube digestif, elle traverse la paroi digestive, infecte notre deuxième cerveau qui entoure notre système digestif, qui lui-même va infecter ce qu'on appelle des inflammations de bas grade, notre cerveau, celui qui est dans notre boîte crânienne. Donc, non seulement elle doit avoir une psychothérapie, mais en plus, elle devrait aussi un petit peu de se préoccuper de son microbiote, de ce qu'elle mange.
Beaucoup de questions vont dans le même sens et je les résume de cette manière-là. Comment nos pensées négatives peuvent avoir un effet sur notre corps? Je pense par exemple aux plaques rouges qui peuvent apparaître sur notre peau après un stress intense. C'est quoi le lien?
Imaginez, Ali, que sans crier gare et sans votre accord, tout d'un coup, je me mette à pousser un hurlement au micro. On peut supposer que tous les gens qui écoutent, dont vous, dont tout le monde dans ce studio, va avoir un stress. Qui dit stress égale production de cortisol et de noradrénaline, qui sont des hormones d'éveil. Parce que dans la nature, si on est en face d'un lion ou si un autobus qui arrive en fonçant, eh bien c'est bien d'avoir une hormone d'éveil qui permet de se barrer en face d'un obstacle ou d'un danger important. Mais si le bruit permanent arrive et qu'on a tout le temps beaucoup de cortisol, ben là, ça n'est plus bénéfique, ça ne nous permet plus de nous échapper. Mais au contraire, l'excès de cortisol va peut-être donner un ulcère à l'estomac, va peut-être donner une hypertension artérielle, peut-être un infarctus à terme, puisqu'il a bien été montré, par exemple, que le bruit discontinu nocturne donne des problèmes physiques. Il y a une très belle étude qui a montré que les immeubles bruyants, si on les compare aux immeubles calmes, eh bien la tension artérielle moyenne des habitants des immeubles bruyants est supérieure d'un à deux points par rapport aux habitants des immeubles calmes. Alors, je ne suis pas en train de dire on va traiter l'hypertension artérielle avec des boules quies, mais on peut les aider un petit peu quand même.
Allez, 10h42, l'heure de retrouver la chronique de notre médecin et romancier Baptiste Bollot.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Baptiste Bollieu.
J'ai une patiente, Ali, on va l'appeler Madame Chaïd, elle est adorable. Un rêve de patiente, vraiment le genre de patiente que on voudrait tous, nous les médecins. Elle est assez âgée, musulmane, très pieuse. Elle a fui la guerre dans son pays pour venir en France il y a plusieurs décennies. Son mari est mort là-bas. Chaque année, Ali, elle m'amène des dattes et des pâtisseries arabes maison. Alors, la semaine dernière, évidemment, après les fêtes de l'Aïd, j'ai eu droit à environ 3 grandes assiettes remplies à ras-bord. Elle a même empilé les pâtisseries de macroute et de desserts arabes. Du miel et encore du miel, comme du si sucre. J'allais pouvoir les manger tous, tout seul. Alors qu'il n'y a aucune version de la réalité où je serais capable de manger tout ça. Aucune. Bref, elle était contente de me les offrir, contente de faire plaisir, et elle m'a promis que la semaine prochaine, Inch'Allah, elle m'amènerait du couscous. Je ne savais pas du tout quoi dire, c'est compliqué d'accueillir les cadeaux des personnes qui vivent avec 3 fois rien, alors j'ai dit merci. Et comme on dit dans la vie, quand on te donne, tu prends, quand on te prend, tu cries. En même temps, elle a un diabète, alors je me dis, tous les gâteaux sucrés que je mange à sa place, est-ce que ça fait pas de moi un meilleur médecin, en tout cas, plus concerné par la santé de ses patientes? Bref, voilà que je me retrouve donc avec ces 3 plats remplis de macroute et je sais pas quoi en faire. Et là, mon père m'appelle, mon petit papa à la retraite, avec ma petite maman à la retraite, qui sont pas croyants pour 2 sous. Ils hébergent depuis peu un couple de réfugiés ukrainiens. Ils sont chrétiens orthodoxes, pas vraiment pratiquants, et leurs 2 enfants qui ont fui la guerre, qui s'avançaient vers leur maison à Odessa. Ils sont arrivés tout récemment en France, alors la communication est difficile, mais ils sont tellement soulagés d'être dans une jolie maison avec mes parents, un petit jardin, loin de la folie des hommes. Alors, ni une des 2, j'ai mis les macroutes bien emballées dans mon sac, j'ai sauté sur mon vélo et je suis allé voir mes parents et la famille de réfugiés jouer dans leur jardin avec leurs 2 enfants en bas âge. Et une voisine de mes parents, qui est d'origine vietnamienne, avait préparé plein de nems pour tout le monde. Alors, on a partagé les gâteaux et les nems. Et c'était une chose étrange de voir ces personnes qui ont fui la guerre manger des gâteaux préparés par une vieille dame diabétique ayant elle-même fui une autre guerre il y a très longtemps. Alors, je crois que je vais lui dire à Madame Chaïd, je pense que c'est important qu'elle le sache, d'une certaine manière, qu'une forme de boucle s'est bouclée grâce à du miel et des amandes, et que manger ces gâteaux, c'était comme plier un peu les formes du temps, c'était perpétuer une solidarité silencieuse et mystérieuse, de ces solidarités qui sont discrètes, qui sont dressées contre nos barbaries internationales. Et il y avait dans ce moment une forme de réciprocité cosmique, que la guerre n'aura pas, que la guerre ne peut pas avoir, ne peut plus avoir, pourquoi c'est dans notre ventre pour toujours. Alors, c'est pas grand chose, mais l'important, Ali, n'est-il pas de voir les petites choses derrière les grandes choses et de voir les grandes choses derrière les petites choses? Merci Madame Chaïd et à la semaine prochaine pour le couscous.
Et je constate que vous n'avez pas ramené de macroune à l'émission et à l'équipe de Grand Bien Vous Fasse. Merci beaucoup Baptiste Beaulieu. Une chronique à podcaster sur l'appli France Inter et à partager sur les réseaux sociaux. Dans un instant, comment améliorer son état de santé quand la vie ne nous a pas fait de cadeaux dans le passé? Ce sera juste après Angèle. On s'habitue à 10h45.
14 ans, première fois je m'en rappelle. J'ai des crampes au ventre, une humeur de merde. Tous les mois c'est pareil, il y a les jours sans, les nuits sans sommeil. C'est où on apprend qu'on va vivre avec les mauvaises nouvelles. Ouh, on s'habitue toujours à tout, même aux peines. C'est fini, c'est dur et d'autres soucis, mais tout finit par passer. Ainsi va la vie, même quand mon cœur s'était déchiré. Ouh, on s'habitue toujours à tout, même aux peines, même aux gênes, même à nous. On s'habitue toujours à tout, sauf peut-être qu'on aime. Aujourd'hui, on est comme toutes les fleurs. Un jour on se ferme, pourtant ça fait mal quand s'arrête un cœur. Et moi j'ai grandi, mais malgré le temps passé, jamais je n'oublie ceux qui sans prévenir nous avaient quittés. Oh, on s'habitue toujours à tout, même aux peines, même aux gênes, même à nous. On s'habitue toujours à tout, sauf peut-être à perdre ce qu'on aime.
Angèle, on s'habitue.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
Et ce matin, on se demande dans quelle mesure les événements négatifs de notre vie influencent notre santé. Vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000. Khaled nous écrit « J'ai été victime d'agression sexuelle de la part d'un membre de la famille pendant mon enfance, durant 2 ans. Aujourd'hui, j'ai 37 ans et je traîne une maladie de peau depuis des années, du psoriasis. Je suis quasiment persuadé que c'est en relation avec ce que j'ai vécu pendant mon enfance. Je n'arrive pas à m'en débarrasser, même si j'essaye d'avoir une bonne hygiène de vie. » Avez-vous des recommandations pour qu'au moins ça s'allège un peu? Cyril Tarquinio, je rappelle que vous êtes professeur de psychologie clinique à l'Université de Lorraine.
Eh bien, cher monsieur, vous avez raison d'être persuadé de cela. En tout cas, il y a de fortes présomptions. Une chose est certaine, c'est que ce soit d'un point de vue médical ou d'un point de vue psychologique, les collègues qui vous proposeront un traitement du symptôme, eh bien, passeront à côté de vos chances de guérison. Je pense que la question du symptôme, c'est à la fois l'expression somatique, hein, mais je pense qu'il y a aussi sans doute des conséquences psychologiques. Je crois qu'il faut traiter le traumatisme. Alors, évidemment, beaucoup de patients disent « Oui, mais on peut pas changer le passé. » Mais bien sûr, on peut pas changer le passé, mais on peut changer les conséquences du passé. Et faire en sorte que ce traumatisme quand même, c'est pas rien ce que vous avez vécu, eh bien, puisse être rangé, je dirais, dans la boîte à souvenirs sans que ça vienne vous déranger et vous perturber. D'une certaine manière, c'est comme si, au fond, quelque chose dans votre tête était resté ouvert et l'expression somatique de ce problème de peau est la trace d'un déséquilibre physiologique. Donc, je vous invite à aller voir des gens qui prennent en charge le trauma dans l'enfance avec des thérapies comme la thérapie EMDR, comme les TCC par exemple, et qui pourront vous amener des réponses. Alors ça ne veut pas dire que aujourd'hui on va tout régler, mais une chose est certaine, c'est qu'il faut éteindre, je dirais, la source de ce qui est à l'origine de votre souffrance, en espérant qu'ensuite, effectivement, la prise en charge intégrative, médicale et psychologique puisse effectivement faire disparaître ce type de gêne.
Baptiste Beaulieu.
Oui, il y a des recherches. Hein. Le docteur Oli Harris a mené une étude sur 60 000 femmes entre 89 et 2013 qui montrait que les femmes ayant subi des abus sévères ont un risque 79% plus élevé de développer une endométriose plus tard. Et pareil, d'autres études montrent, notamment pour les personnes atteintes de fibromyalgie, que 57% d'entre elles auraient eu ou vécu un vécu traumatique d'abus ou d'agression dans l'enfance ou l'adolescence.
Alors Cyril Tarquinio, plus on est confronté à des événements difficiles dans l'enfance ou l'adolescence, plus on a de risques de manifester des pathologies importantes à l'âge adulte. Mais quel est le mécanisme? Expliquez-nous un petit peu ce mécanisme.
Il est un peu compliqué, hein, je veux dire, à expliquer en tant que tel. Mais je crois qu'on peut rester sur ce que j'ai évoqué, ce qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir que, au fond, il y a un dérèglement physiologique. Surtout, je crois qu'on l'évoquait tout à l'heure, ce dérèglement physiologique conduit à cette soupe d'hormones de stress. Hein. On peut garder le terme. Hein. Je veux dire, il est éclairant en tant que tel. Qui, au fond, inonde l'organisme. Parce qu'il n'y a plus rien pour le réguler.
Hein. Et des travaux montrent que ceux qui ont été confrontés à l'adversité durant l'enfance ou l'adolescence ont des niveaux très élevés de biomarqueurs inflammatoire, cette inflammation chronique silencieuse qui a des effets délétères sur notre santé.
Complètement. Et c'est complètement ça. C'est-à-dire qu'on revient sur les explications de tout à l'heure.
Docteur Lemoine.
Mais on sait effectivement que ce que vous avez cité, qui est très important, ce qu'on appelle donc l'inflammation de bas grade, peut entraîner des problèmes d'obésité, peut entraîner des problèmes de diabète. Comme conséquence du stress, on va de l'hyperthyroïdie jusqu'au glaucome. Donc on voit des choses absolument incroyable. Et alors, on va pas dire, ni le professeur Tarquinio, ni moi, dire qu'une psychothérapie, même bien faite, va guérir un psoriasis ou autre chose. Ce qu'on va dire, c'est que ça va mettre le sujet dans les meilleures conditions possibles pour surmonter ce genre de problème chronique. Donc, on a maintenant toute une panoplie de nouvelles formes de psychothérapie. On a cité déjà l'EMDR, il y a l'hypnose.
Expliquez l'EMDR en quelques mots.
Alors l'EMDR, c'est Eyes Movement, Desensitization Reprocessing, par les mouvements des yeux. C'est-à-dire que en faisant travailler alternativement les deux hémisphères, on arrive à faire des transferts d'informations. Je vais prendre une métaphore très très simple. Imaginons tout à l'heure, Ali, en revenant chez vous, vous allez un peu vite, vous êtes flashé, vous n'êtes pas content. Et ce soir, en vous couchant, vous avez marre, encore un impôt supplémentaire caché, et vous allez peut-être passer une mauvaise nuit, puis le lendemain matin, vous allez dire, bon, il y a plus grave dans la vie, c'est quand même pas terrible. Vous aurez transféré, téléchargé, au sens email du terme, le stress bénin flash de l'affectif au raisonnable. Donc il y a eu un transfert. Et puis imaginons que vous voyez une scène d'épouvante, genre Bataclan, sur votre trajet, vous vous couchez, vous êtes mal, vous passez une nuit horrible, vous faites plein de cauchemars, le lendemain c'est toujours aussi pire, et puis vous avez des flashbacks dans la journée, et dans 6 mois, peut-être vous aurez un syndrome de stress post-traumatique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que la pièce jointe, l'horreur, est trop lourde, qu'elle ne passe pas. Le message ne peut pas entraîner la pièce lourde. Et du coup, le système insiste. Cauchemar répétitif, flashback dans la journée. Et puis au bout d'un moment, il se met en boucle. Et c'est la décompensation. Le MDR, c'est quoi? C'est juste mimer ce qu'on travaille avec le rêve, le sommeil paradoxal, au cours des nuits. C'est-à-dire faire transférer des mauvaises informations, les faire digérer. Pas oublier que plus de 80% des rêves sont plutôt désagréables. C'est rare, les bons rêves. Et là, le MDR force le passage d'un hémisphère à l'autre, en faisant travailler soit avec les mouvements des yeux, soit en tapotant la face externe des genoux, soit en faisant des bruits de chaque côté des oreilles, etc., etc., force le passage en fragmentant le message, parce que si le message est trop lourd, ben on l'envoie par petits morceaux. Si vous voulez envoyer 200 photos de mariage et que ça passe pas, ben vous allez les envoyer par petits groupes de 50. Mais on fait rien d'autre que le MDR, on fragmente le message et il passe.
Cyril Tarquinet.
Ah, je suis pas d'accord, mais bon, c'est pas grave. Alors, je suis pas d'accord du tout parce que d'abord, alors mon laboratoire est un et le laboratoire européen le plus avancé dans les travaux sur la thérapie EMDR et on le doit à David Servan-Schreiber avec lequel on a beaucoup travaillé juste avant sa mort et on a fait de l'EMDR un enseignement académique. Et aujourd'hui, effectivement, tous les enjeux sont d'essayer de comprendre ce qui se passe dans cette thérapie qu'on appellerait plus EMDR aujourd'hui puisqu'on n'utilise plus les mouvements oculaires. C'est une thérapie qui est prometteuse, aujourd'hui qui est recommandée par l'OMS et l'HAS dans la prise en charge du trauma, mais pas seulement, dans le champ de la psychopathologie au sens large. C'est une thérapie, au fond, on sait pas pourquoi ça marche. Mais la théorie du sommeil REM, elle a été abandonnée. Parce que les mouvements des yeux pendant les phases de sommeil paradoxal...
Ce n'est qu'une métaphore.
Elle a été abandonnée. Mais aujourd'hui, il y a un enjeu majeur et surtout, c'est un espoir pour les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des outils qui, effectivement, réparent. Et c'est ça qu'il faut retenir.
Pour terminer, de quelle façon l'amour et le pardon... peuvent nous aider à limiter cet impact des traumatismes vécus dans l'enfance ou l'adolescence à l'âge adulte.
Alors, ça peut aider, comme je l'évoquais tout à l'heure. Je crois que tout à l'heure, on évoquait le fait, et le docteur Lemoine l'a très clairement dit, que l'environnement, au sens large, et j'avais pris l'image de la chenille, allait déterminer l'expression de certains gènes, négativement. Bien. Eh bien, l'amour, c'est un autre environnement. Positif. C'est-à-dire, on crée un environnement positif qui va contrebalancer les effets. C'est ça, ça crée de la sécurité, ça crée de la valorisation. Donc ça crée...
Grâce à l'ocytocine, cette hormone de l'attachement et de l'amour.
Voilà, et ben vous avez anticipé mon propos. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on contrebalance quelque chose, on crée un autre environnement et on montre que d'un point de vue d'ailleurs épigénétique, on réinverse la mécanique.
Et le pardon ?
Alors le pardon, j'ai toujours un petit problème avec le pardon. Parce que la question du pardon, moi je pardonne quand on me demande pardon. Voilà. Alors ça c'est la première chose. Je veux dire, et Cyril Nick d'ailleurs l'a dit à plusieurs reprises, quand on lui pose la question du pardon sur ce qu'il a vécu, il me dit, mais au fond les nazis m'ont jamais demandé pardon. Hein. Mais visiblement ça peut apaiser. Je crois que c'est un travail de soi avec soi, la question du pardon. Mais sans doute que ça soulage, parce que de toute façon, la colère... Elle, c'est la double peine. Non seulement on m'a fait du mal, première chose, mais la colère, si j'ai la colère contre vous, c'est moi que ça détruit, pas vous.
Un mot, que dire à tous ceux qui ont connu l'adversité dans leur enfance, leur adolescence et qui souffrent de maladies chroniques, peut-être en lien avec ces événements difficiles ?
Eh bien, c'est de leur dire d'abord, c'est pas de leur faute. Hein. Je veux dire, souvent les victimes se sentent responsables, mais je suis désolé. Je veux dire, si on abuse de moi, j'y suis pour rien, quoi. Je veux dire, si on me fait du mal, j'y suis pour rien. Je veux dire, si on me maltraite, j'y suis pour rien. Première chose. Et la deuxième chose, c'est que il y a des éléments de réponse aujourd'hui. Et que on a de la chance d'être dans notre époque aujourd'hui. La science avance et on a des éléments à la fois médicaux et psychothérapeutiques novateurs et qui réparent. Et ça, c'est bien.
Merci à tous. Merci Patrick Lemoine. Vous revenez bientôt pour votre livre consacré au génie.
Absolument.
Merci Cyril Tarquinio. Je recommande vraiment « Les maladies ne tombent peut-être pas du ciel. Comment les événements négatifs ont un impact sur notre santé ?» avec une préface de Boris Cyrulnik et c'est publié chez Dunod. Demain, on s'intéresse aux bienfaits du sourire avec l'anthropologue David Le Breton.